RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
L'esprit des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Oh ouais, si vous êtes sur RMC Story, vous avez vu, on a changé de plateau. Là, cette semaine, on nous a donné le grand plateau, le plateau 1. Alors, je veux dire, on est monté une promotion des grandes gueules. Alors, ce plateau, pour ceux qui connaissent bien les grandes gueules, les historiques, on l'a eu pendant des années parce qu'on avait du public. Et le public a disparu avec le Covid. Il n'est jamais revenu.
C'est dommage.
Et donc, on aurait
des hordes de fans en amoureux de Charles ou de moi, ça serait beau.
T'avais connu, toi, avec le public?
Non, quand j'étais venu chez vous étiez en retour, sur Glane.
Déjà dans
ouais, vous étiez en retour sur Glane, donc.
Ah oui, mais il y a très longtemps.
Ah bah, moi, pour avoir
donc
2016.
Après, t'as peut-être connu le public.
Oui, mais.
Je crois pas, parce que moi, le seul truc que j'ai fait en public, c'était un débat avec Apolline, et je crois que c'était ici. C'était avec Bérou.
Charles, toi, tu as connu le public.
Bien sûr, mais je pouvais à peine rentrer dans le studio.
Oui,
il y avait des hurrahs.
Ah bah, c'était un truc de dingue.
C'était dingue, hein. Les gens,
je recevais des sous-vêtements. On me jetait des sous-vêtements pendant l'émission.
T'as dû recevoir des gaines.
C'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on n'arrivait pas à tenir le public par rapport à Charles.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Les émeutes, bien sûr.
Il y avait des émeutes. Allez, Laurent Barthon,
j'étais obligé de payer des gardes du corps.
Charles Consigny, Bruno Poncet sont dans les grandes gueules ce matin. N'oublions pas également que cette semaine, où on fait gagner un magnifique séjour au parc Astérix. Séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Et pour le gagner, ce séjour, c'est très simple. Vous envoyez le mot parc au 732-16. Parc au 732-16. Dépêchez-vous, un gagnant ou une gagnante à 11h20. Donc il vous reste encore 17 minutes pour jouer. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vendredi dernier.
Quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait que il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. Mmh. D'accord? Voilà, c'est ça la question. Mmh. Donc, oui.
Mais est-ce qu'ils sont incurables?
Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens.
Deuxième sujet.
Voilà, ça c'est le député Éric Coquerel qui justifie le fait que des députés de gauche, et notamment les Insoumis, ont supprimé l'une des mesures les plus débattues du projet de loi sur la protection de l'enfance, à savoir la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série quand une ou au moins des victimes a moins de 15 ans. Alors c'est un article qui était introduit dans le projet de loi sur la protection des enfants par le gouvernement après l'affaire Liana, et qui a été rejeté. L'ambiance était assez tendue vendredi, rejeté par les voix de gauche et des écologistes, avec cet argument que défend Éric Coquerel, à savoir qu'il faut privilégier une réponse de prévention de la récidive plutôt qu'une réponse répressive. Il pense que même si quelqu'un a violé un bébé, il ne doit pas être condamné à vie. Qu'en pensez-vous? Le 32-16 pour intervenir, je te voyais réagir, Laurent Barthon-Martinez.
Oui, mais alors déjà, je voudrais juste faire un petit clin d'œil au t-shirt que je porte, que je n'ai pas porté de manière anodine. C'est un t-shirt que vous pouvez acheter sur protégernosenfants.fr et l'ensemble des bénéfices reviennent à l'association Enfance et Partage qui protège des enfants victimes de violences sexuelles et autres depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai même pas les mots. C'est un extrait que j'ai mis moi sur mes réseaux sociaux hier. Je peux pas vous dire les victimes qui m'ont écrit, les parents de victimes qui m'ont écrit, des gens indignés tout simplement. Honnêtement, je comprends pas, sachant qu'on a suffisamment d'études maintenant qui nous montrent que un pédocriminel qui passe à l'acte repassera à l'acte systématiquement. Je suis par contre, évidemment, pour un accompagnement réel pour les pédophiles qui ne passent pas à l'acte et qui sont effectivement, c'est une maladie mentale, je pense. Mais quand vous passez à l'acte, non, je suis désolée. Je n'arrive pas. Je n'ai aucune complaisance. Je n'ai aucune compassion. Je n'arrive même pas à avoir ne serait-ce qu'un minima d'empathie. Tu violes un enfant, tu vas en taule. C'est le principe de précaution pour tous les autres enfants.
La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a annoncé qu'elle va demander un nouveau vote sur cette mesure. Et elle cite notamment le cas de Joël Le Squarneck. Vous savez, qui est l'un des plus grands pédocriminels que la France ait connu. Eh bien, voilà ce qu'elle dit. Dans un cas comme celui de Le Squarneck, qui a commis 299 viols sur mineurs, il n'était pas possible de requérir la perpétuité. Et donc, il a été condamné pour une peine maximale de 20 ans. Et c'est ça que la loi doit
changer. Et en moyenne, un pédocriminel, juste, et après je laisse la parole, un pédocriminel, c'est entre 10 et 15 victimes. Ça ne veut pas dire 15-20 viols. 10-15 victimes.
Charles Consigny.
Non, moi, je ne serais pas hostile par principe à ce qu'on mette en place la perpétuité pour les violeurs en série sur mineurs.
Ça concerne très peu de personnes.
Hein. Néanmoins, je pense qu'on se trompe de levier, si tu veux. C'est-à-dire que c'est très bien. Les parlementaires, dans une espèce de griserie un peu moyenâgeuse, aggravent indéfiniment les peines. On a l'impression maintenant que la justice doit être une espèce de voie sans issue, qu'à partir du moment où on est pris dans le filet judiciaire, en fait, il faut qu'on en ressorte dans une tombe. Quasiment, on a le sentiment qu'il y a une espèce de demande comme ça, à la fois dans l'opinion et dans la classe politique. Il faut que la justice devienne une impasse. Je pense que on peut le faire si on veut. On peut considérer que les peines sont insuffisantes. Il faut savoir quand même que s'agissant d'un, là on parle en fait de viol en série qui n'aurait pas été mis au jour ou poursuivi et qui serait jugé tous ensemble. Parce que quand vous êtes en récidive, vous n'encourez plus 15 ou 20 ans. Vous pouvez encourir à ce moment-là perpétuité. Ouais. Si vous êtes un violeur récidiviste sur mineur, ça existe déjà. Ça suppose que vous ayez déjà été condamné une première fois.
Je sens que c'est hyper compliqué. C'est pas condamné une fois en France.
Oh, je suis pas sûr.
C'est 1% des agressions sexuelles arrivent jusqu'à une condamnation.
Alors, le Squarneck a été pendant des années,
je ne crois pas,
totalement protégé. Merci. Le Squarneck, il a fait une carrière de pédocriminel, si j'ose dire, protégé.
C'était le médecin
par ses pairs, les médecins, ignoré par la justice.
Et en général, quand on chope un violeur, on se rend compte.
Mais je pense que, franchement, moi, je serais pas contre aggraver ces peines, mais je dis juste que attention à pas se laisser griser.
Non, c'est pas ça. On n'est pas sur toutes les peines. On est sur les crimes qui touchent les enfants.
Mais regarde,
et je suis désolée. Et quand tu prends un pédocriminel,
aggraver toutes les peines.
Non, moi, pas moi. Et moi, je suis désolée. Quand en général, tu prends un pédocriminel, quand tu le chopes pour une victime, tu te rends compte que derrière, t'as une ramification énorme. Je suis désolée. Tu chopes un pédo, tu le mets en tôle jusqu'à la fin de sa vie.
Bruno Poncet, avant d'écouter Christine qui va nous raconter son histoire personnelle.
Moi, je suis d'accord avec Charles et avec Laurent. En fait, les deux à la fois. C'est-à-dire que.
Pourtant, ils sont pas d'accord.
C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je peux être d'accord avec les deux. Moi, je trouve que, effectivement, dans ce cas bien précis d'un violeur d'enfants en série, effectivement, il faut des peines qui soient. Comme en France, on peut pas cumuler les peines. C'est-à-dire que tu peux pas prendre 15 ans plus 15 plus 15. Il faut qu'à un moment donné, tu mettes une peine maximale à quelqu'un qui fait ça et qui, malheureusement, vu le peu de suivi qu'il y a dans les prisons, quand il ressortira, et on l'a vu dernièrement malheureusement, il recommencera certainement. Après, moi je suis d'accord avec Charles, cette façon de faire de la politique en réaction toujours en fait divers à l'actualité, avec des gens qui sont au pouvoir depuis 10 piges, qui n'ont jamais changé les lois, alors que ce genre de sujet-là est quand même sur la table depuis un paquet d'années, moi je trouve ça quand même assez hypocrite. Et je rappelle quand même que tu as quand même pas mal de cas aujourd'hui qui sortent, et dont des cas qui sont quand même assez importants à la mairie de Paris après des élections, alors que pendant les élections on n'en a pas parlé. Et je trouve que aujourd'hui entendre des socialistes attaquer et les filles ou d'autres partis, je me dis il faudrait déjà un peu qu'ils mettent le frein sur le truc et qu'ils se rappellent d'où ils viennent. Et par contre, je trouve que Coquerel l'a fait une vraie faute politique, parce que je pense qu'il a mal lu le dossier. Je pense qu'il est, et on l'a appelé parce qu'il y avait que lui certainement, et que quand il est passé à la télé, il a été à chier.
On peut
dire les mots. Et je trouve que là, à un moment donné, il a mal défendu son point de vue. S'il pense vraiment ce qu'il a dit, moi, il me fait un peu de peine, et je trouve qu'il est peut-être temps qu'il parte à la retraite.
D'ailleurs.
Par contre, s'il s'est embourbé, il faudra peut-être aussi
qu'il s'interroger sur l'exemple, quand même.
Je voudrais qu'on écoute Christine, parce que Christine nous attend
bébés,
au 3216. Bonjour, Christine.
Oui, bonjour les GG.
Vous nous appelez de Saint-Germain-sous-Morin, c'est en Seine-et-Marne. Et racontez-nous votre histoire.
Alors, en fait, mon histoire, donc, il y a 40 ans, hein, à l'âge de 14 ans. J'ai été enlevée, séquestrée, avec une arme de poing et violée par deux hommes. Mes amis m'ont vue dans le véhicule, donc ont prévenu mes parents. donc qui ont appelé les gendarmes. Une fois leur saloperie, excusez-moi du terme, fait sur moi, ils m'ont relâché. Donc j'ai vu une voiture de gendarmerie, donc je me suis présentée, ils m'ont ramené chez mes parents. J'ai une gendarme qui est rentrée dans ma chambre et qui m'a dit, écoute, ma belle, si tu parles pas, ils vont recommencer avec d'autres. Moi, je venais de subir quelque chose d'horrible. Donc effectivement, j'étais pétrifiée, j'ai rien dit. Les gendarmes sont repartis, hein, comme si ils avaient fait leur travail, ils m'ont retrouvée, ils m'ont ramenée chez moi.
Il s'est rien passé derrière. Il y a une enquête quand même.
Il n'y a pas eu d'enquête.
Ah bon?
Il n'y a eu aucune enquête. Les gens savaient, beaucoup de gens savaient, personne n'a rien dit.
Les gens savaient, c'est-à-dire que les gens connaissaient vos agresseurs?
C'est ça.
Ça s'est passé il y a combien de temps?
Toujours comme ça.
40 ans.
40 ans.
Voilà. Et en fait, ce qui me fait bondir, bon, moi aujourd'hui, alors j'ai fait une thérapie qui a duré une quinzaine d'années. Donc mes parents, en fait, ma thérapeute, je devais avoir 22 ans, m'a dit, écoutez, je pense qu'il est temps de dire à vos parents ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ça a détruit ma scolarité, ça a détruit.
Et vous avez rien dit à vos parents?
J'avais une peur. En fait, je me sentais pas victime, mais coupable, en fait.
Ouais.
Comme toutes.
Malheureusement, donc moi j'ai une fille qui a 21 ans aujourd'hui. Ouais. Elle s'est fait agresser dans une gare, à la gare de Melun, sur un quai, agression sexuelle, devant des dizaines de personnes. Personne n'a bougé. Donc là, par contre, on a porté plainte. Elle a été entendue. On a pris toutes ses affaires, tous ses bijoux, on a tout mis sous scellé. On n'a jamais été convoqué par la justice. C'est-à-dire que son agresseur n'a jamais été inquiété.
Ah oui.
Voilà. Donc, je me dis, de décennie en décennie, ces gens-là, rien ne change. Et vous savez, la personne que j'ai eue au standard m'a dit que je pouvais, elle m'a dit, vous pouvez le dire et je vais vous le dire. Cette personne, je l'ai cherchée. Et
l'agression de votre fille?
Oui, je l'ai cherché. Et j'ai pas honte à vous le dire, si je l'avais trouvé, je l'aurais massacré. C'est-à-dire que j'aurais pu faire de la prison, mais je lui aurais pas permis de réagresser une autre personne.
Parce qu'en fait, il y a le sentiment que la justice n'a pas fait son boulot et vous dites, c'est à moi de le faire, quoi.
Ce qui est scandaleux, c'est que même si la justice l'avait attrapé, parce que la justice l'a attrapé, il a été entendu puisqu'il avait volé le portefeuille de ma fille.
Ça, c'est grave.
Ma fille, à l'époque, était dans un lycée.
Ouais.
Donc, il a remis le portefeuille de ma fille dans la boîte aux lettres du lycée parce qu'il y avait sa carte scolaire de cantine. Donc, il a été entendu, mais il a été relâché. Sauf qu'en fait, même s'il y avait eu condamnation, il aurait pris une condamnation.
Mais Christine, on comprend bien effectivement votre frustration par rapport à une réponse de la justice qui n'est pas à la hauteur. Mais par exemple, est-ce qu'il faut effectivement mettre en place cette réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série?
Il faut montrer qu'en France, à un moment donné, c'est interdit. Il va falloir que les choses elles changent.
Exactement, mais je suis complètement d'accord avec. Elle n'est pas là souvent,
c'est Marshall.
Tous les jours.
C'est Alain Marchal qui vient de s'exprimer.
Vous ne laissez pas distraire par chaque consigne. En tout cas, Christine, merci d'avoir témoigné, d'avoir raconté ce que vous avez vécu il y a 50 ans et ce que
et
votre
bon
fille a vécu et ce sentiment, effectivement, d'injustice, puisque derrière, il n'y a pas de réponse à la hauteur. On posait la question de cette perpétuité. Après, est-ce que ça va changer grand-chose?
C'est-à-dire
que. Non, mais Laura, je te pose la question. Je comprends la volonté d'être toujours plus ferme, etc. Puis ça arrive dans la foulée de l'affaire Liana, mais sincèrement, est-ce que ça empêche les pédocriminels de passer à l'acte? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur la détection?
Alors, tu as un travail à faire sur la
protection des enfants.
C'est ce qu'on
Effectivement, quand il y a un signalement.
Sur le dossier qu'on a rendu.
Tout de suite. Bah
oui, enfin, sur le dossier,
police, c'est pas sur ça qu'il faut bosser.
Sur le dossier qu'on a. Mais en fait, c'est une multitude de choses. Sur le dossier qu'on a rendu, qui a été maintenant déposé au Premier ministre, on a parlé justement d'une plateforme où toutes les informations qui émanent des services de police, de la gendarmerie, etc., soient toutes renseignées, que une IA fasse des gros warnings s'il y a deux signalements de la même personne, etc., pour éviter justement l'affaire Liana. Donc oui, il y a des choses comme ça qui doivent être faites. Mais à un moment donné aussi, il faut que les gens qui passent à l'acte dans ce pays soient des parias de la société. Il faut que la culture du viol disparaisse de notre pays. Moi, je suis désolée. Quand j'entends Monsieur Coquerel qui prend en exemple des bébés violés, mais je me dis, mais comment il peut même avoir l'idée de prendre ça en exemple sur un plateau télé? Ce mec est fou.
On lui parle de viol sur mineur.
Oui, mais justement, avant d'attaquer bébé, enfin moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête.
Il est interrogé là-dessus. Donc,
bébé,
il
un mec qui viole un bébé. Depuis tout à l'heure, nous, il n'y en a pas un de nous autour de la table qui a été traqué.
Ce que dit Coquerel, c'est que c'est tellement ignoble de faire
ça,
que en fait, quelqu'un qui fait ça, c'est pas le fait de risquer perpète ou 20 ans qui va changer quelque chose dans sa tête. C'est ça qu'il dit.
Merci Christine de ce témoignage. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules sur cette perpétuité donc pour les auteurs de viols en série sur des mineurs. Est-ce que le fait d'avoir rejeté cette possibilité, c'est une faute politique? Vous dites oui à 95,4%. Il y a quand même une demande de plus de fermeté et de sanctions de la part des Français. On a Caroline avec nous au 32-16. Bonjour Caroline. Caroline.
Oui.
Bienvenue dans les GG. Dites-moi, vous connaissez le parc Astérix ?
Eh bien écoutez, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Et
Vous allez y retourner cet été.
Je suis trop contente.
Ben
alors,
oui.
Là, vraiment, vous m'avez fait ma journée.
Avec deux enfants. Vous avez deux enfants ?
Oui,
bon,
deux ados.
Trois. Alors, ça va être difficile. Ben, ça tombe bien. Deux adultes, deux enfants, un séjour, la nuit d'hôtel pour quatre personnes au parc Astérix. Vous allez dormir sur place et vous allez pouvoir profiter des 50 attractions et spectacles prévus cet été au parc Astérix. C'est un des plus beaux parcs en France. Vous allez vous régaler.
Ah, c'est génial. Je vous remercie beaucoup.
Bravo, Caroline.
Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.
Gagnez votre séjour au parc Astérix sur RMC et célébrez l'été gaulois. Du 11 juillet au 30 août, profitez de soirées jusqu'à 22h et d'un tout nouveau spectacle de drones.
On avait pensé que Sébastien Lecornu avait vraiment mis fin aux avantages liés à la fonction de Premier ministre. Lorsque les premiers ministres quittent Matignon, on leur laissait chauffeur, etc. Et Lecornu avait dit stop. Eh bien, on s'aperçoit que non, c'est pas si simple. Il y a eu des dérogations. Et pourquoi il y a eu des dérogations? C'est lunaire, dit Laura. Eh bien, on va voir ça dans un instant sur RMC, RMC Story. Ne bougez pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Quelle musique.
11h24 sur RMC, RMC Story, quel générique, hein, Toi qui aimes la grande musique, tu reconnais que le générique des Grandes Gueules, c'est un peu le top.
J'ai mis en sonnerie de portable, vraiment un truc.
Bah oui.
Mais en vidéo, parce que moi je veux me voir aussi, je suis un petit peu narcissique.
Oui, j'aime bien voir le générique pour te voir.
Oui, voilà. Bah, et pour voir Charles aussi, ce qu'il est beau.
Bah bien sûr, quel bel homme. Charles Consigny dans les Grandes Gueules et Laura Barton-Martinez également, notre sophrologue. Vous savez, depuis le 1er janvier 2026 de cette année, tous les anciens chefs de gouvernement et ex-ministres de l'Intérieur ne disposent plus d'une voiture avec chauffeur ni de secrétariat. Et la très grande majorité ne doit plus être protégée par l'officier de sécurité. C'était ce qu'avait dit Sébastien Lecornu. Et patatras, on s'aperçoit que la règle n'est pas respectée par tout le monde.
Incroyable.
Et non, on s'est aperçu, par exemple, qu'Edith Cresson, qui a été Premier ministre, et là je parle aux plus jeunes, dans les années 90, elle est restée quelques mois à Matignon, bénéficie depuis ce temps-là de ses avantages et que ses avantages lui ont pas été retirés. On s'est aperçu également que Jean-Pierre Raffarin, qui a été ex-Premier ministre de Jacques Chirac dans les années 2000, pareil, a gardé son véhicule. Alors on l'a appelé pour Raffarin parce que Giroffard, parce qu'il est son chauffeur est rentré dans un piéton, je crois, et donc il est dans un motard, pardon, ouais, et donc il est impliqué dans un accident de circulation. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que Jean-Pierre Raffarin avait gardé ses avantages.
Et qui était courageux parce qu'il s'était enfui.
Alors, explication de Matignon, parce que forcément un peu embarrassé par tout ça, il dit oui, mais parce que c'est des raisons de santé. Et c'est-à-dire qu'Edith Cresson, elle a eu droit à garder sa voiture pour des raisons de santé. Donc elle conserve ses avantages. 6 mois de plus. Alors pour Jean-Pierre Raffarin, on ne sait pas la raison, parce qu'a priori, il est en bonne santé.
Des raisons de santé.
Lionel Jospin également avait gardé sa voiture pour des raisons de santé. Alors l'ancien Premier ministre est mort. Il est mort le 22 mars 2020. Mais il était concerné par ce genre de dérogation. Est-ce que vous comprenez ce genre de dérogation ou est-ce qu'il faut que le cornu applique d'une façon très sévère ces nouvelles règles? Bruno Poncet.
Bah, je pense que le cornu, sur ce coup-là, il s'est fait un peu manger parce qu'il serait un peu mytho comme le cornu. Parce que nous expliquer que tu gardes ta voiture avec ton chauffeur et ta secrétaire pour des raisons de santé, enfin, je suis désolé, j'imagine qu'ils ont assez d'argent.
La secrétaire n'est pas un médecin ni une infirmière.
Non, voilà. Et puis je pense qu'ils ont assez d'argent pour se payer une propre voiture ou faire un leasing. Les pauvres, à 200 euros la R5 électrique, je pense qu'ils pouvaient quand même se l'acheter.
Bah, surtout que s'ils ont des raisons de santé, a priori, ils ne prennent plus trop la voiture.
Non, puis, Olivier.
Techniquement, ils ont une mutuelle, à part nous la sécu, le taxi
de la table, qui a connu Edith Cresson qui se rappelle d'elle.
Mais moi je m'en souviens très bien.
Moi j'étais pas née. Parce qu'à l'époque... j'étais pas née.
Bah non, puis elle est restée 9 mois. Elle est restée 9 mois, elle a eu le temps d'insulter les Anglais. C'est pour ça que je me rappelle très bien, moi. Rappelle-toi ce qu'elle avait dit sur eux.
Et en fait, les Japonais aussi, elle les avait traités de fourmis.
Oui, de fourmis. Mais je sais pas qui. Enfin, en fait, je trouve que le cornu, au-delà du symbole, et puis là, on peut rigoler sur deux cas, mais enfin, je trouve que le cornu, en fait, il est à l'image de ce qu'il va faire jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire qu'il va rien faire.
C'est de la com, quoi.
Tout ce qu'il dit, oui, il va pas le faire. Et surtout, l'équipe. Tu vois, en fait, aujourd'hui, de nous relancer, par exemple, la Cour des comptes sur les avantages de corporation, plutôt que d'aller gratter sur les hommes politiques et femmes politiques qui se grattent depuis des années. Et puis, alors, tu vois, par exemple, moi, je voudrais bien savoir si Attal a gardé un homme de sécurité, par exemple.
Oui.
Et à 35 piges, il peut peut-être faire du karaté, se défendre tout seul, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois...
Alors, Matignon dit que la règle reste toujours la même et que les deux qui avaient eu dérogation, donc Edith Cresson et je ne sais plus qui, eux, c'est le 1er août 2026.
Jospin.
1er août 2026, et c'était pour des raisons sanitaires et humaines particulières.
Oui. Et Raffarin.
Charles Consigny.
Non, mais d'abord, je pense que c'est une bonne mesure. C'est une mesure symbolique, mais qui compte. J'ai le cas, je connais un ancien Premier ministre éminent qui est obligé maintenant de se déplacer en vélo dans Paris. Je le croise d'ailleurs à vélo dans Paris. Il me fait un vélo électrique. Somme toute, alors lui, il fait un peu la gueule, mais moi, je pense que ça lui fait pas de mal. Dans l'absolu, je parle pas pour lui en particulier, oui, qui aurait besoin de recevoir je ne sais quelle leçon, mais je pense que dans l'absolu, quand on a...
Vivre un peu plus sobrement.
De plus enfanter une espèce d'aristocratie d'État à laquelle en fait on laisse des charges et des carrosses par-delà leurs fonctions exécutives, ça me paraît pas extravagant. De même, Raffarin, j'aime beaucoup Raffarin, c'est quelqu'un de bonne qualité. Je crois qu'il gagne très bien sa vie en faisant de la diplomatie parallèle avec la Chine. Bon, bah, je suis pas sûr qu'on soit. Il peut se payer un abonnement au club affaires. Je veux dire, y a pas de problème. On n'est pas obligé de lui laisser une bagnole. Je connais d'ailleurs d'autres ministres qui, pour le coup, alors là, sont des gens d'une inutilité confinante à la nuisance, que je voyais se balader dans Paris à bord de bagnoles avec gyrophares, etc. Honnêtement, j'avais honte d'abord pour les fonctionnaires de police qui étaient obligés, qu'on était réduits à s'occuper de ces gens, je vous dis, tellement inutiles que ça devient gênant. Et donc, je suis très content que ces gens-là, maintenant, soient obligés de se déplacer par leurs propres moyens. Donc, en vrai, ce sont des bonnes mesures qu'on ait laissé à Edith Cresson, qui doit avoir je ne sais quel âge, puisqu'effectivement, moi-même, j'étais pas né quand elle était première ministre.
Une personne très âgée, qui est malade, qui se déplace en fauteuil.
Voilà, on n'est pas obligé non plus d'ajouter de la mesquinerie autour de trucs.
Donc ça te choque pas qu'on lui laisse un peu de temps.
C'est un processus qui peut être un tout petit peu transitoire et on peut être un tout petit peu élégant avec les gens très âgés, etc. Si on a deux, alors je comprends que ça fasse hurler parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais moi, ma grand-mère, moi, c'est pareil, hein, moi, ma grand-mère, elle a plus de 90 ans, elle a pas de chauffeur, je suis content de lui servir parfois et très rarement de chauffeur et j'essaye de faire ça bien, mais pour autant j'ai pas forcément envie qu'on retire à Edith Cresson sa Citroën C5 à la con, voilà, c'est, je veux dire on peut attendre une seconde, il y a pas, voilà. Mais sinon je pense que c'est une bonne mesure simplement.
Donc elle doit s'appliquer au nouveau, alors Sébastien Lecornu, ce sera un ancien premier
nouveau, ça c'est sûr, à tous les nouveaux. Et attention, je veux pas faire un tunnel, je sens l'alerte tunnel qui va arriver. Tunnel,
mais je l'ai pas. Avec je peux pas la déclencher, mais ça fait longtemps que j'en ai.
Attention aux raisons de sécurité bidon, parce que t'en as qui prétendent que c'est pour leur sécurité, alors que honnêtement, ils peuvent prendre le métro à une heure de pointe, personne ne va les embêter.
Souvenez-vous, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, de Lionel Jospin. Oui. Et là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans non plus n'ont pas connu.
C'est impressionnant.
Conjugue et tout.
Quand on lui a supprimé sa voiture, parce que les mises à l'intérieur avaient aussi ses avantages, on sait pas pourquoi d'ailleurs le ministre de l'Intérieur avait ses avantages et pas les autres. Alors, on nous expliquait que c'est pour des raisons de sécurité. Je suis pas sûr que Daniel Vaillant, en 2026, soit menacé de mort. Mais bon, il avait dit, mais comment je vais faire? C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'il n'a jamais conduit qu'il se voit pas reconduire. Et en fait, il y avait simplement un problème.
Comment je fais? Il prend un abonnement de taxi, se débrouille.
Laura Varton-Martinez.
En fait, ce n'est qu'un syndrome parmi tant d'autres, en fait, quand on regarde. Mais ça, on l'applique au ministre, mais on l'applique aussi, pardon, aux députés, et même quand ils sont encore en fonction, quand on voit que tout le système informatique d'un député, pourquoi ils ont une telle enveloppe, c'est parce qu'ils changent tous leurs ordinateurs, leurs machins et tout à chaque mandat. Il y a tellement de gabegies financières, et je trouve que Charles a donné une très bonne expression. On est en train de recréer la bourgeoisie.
L'aristocratie.
Non, mais vraiment, dans mais le sens. Rempli de privilèges, et t'as l'impression que quand tu vois Madame Hidalgo, que si tu lui enlèves ses frais de représentation, comment je m'habille, comment je mange, comment je me déplace.
Ça leur enlève tout.
Quel est l'intérêt de ces fonctions? Non, mais je.
Alors, moi, par contre, je suis partisane.
C'est pas populaire ce que je vais dire, mais si tu leur retires ça.
Mais moi, je suis d'accord.
Ils vont se dire, mais pourquoi il n'y a que des coups à prendre?
Non, moi, je suis d'accord.
On est traîné dans la boue. Quand on est politique aujourd'hui, on a quand même moins de
pouvoir de l'État. Non, c'est pas vrai.
Non, moi, je suis d'accord. Moi, je les paierais beaucoup plus. Honnêtement, je ferais un réel salaire. Ça m'éviterait d'avoir que des branques. Moi, quand je vois les gens d'une intelligence qui sont dans le privé, évidemment, il n'y a que des coups à prendre. Tu te fais dégommer, tu n'as plus de vie privée, tu n'as plus de vie sociale, etc.
Tu viens me faire pleurer pour eux, tiens. J'ai des larmes qui coulent, là.
Mais faut pas être délégué syndical,
tu vois, c'est la même chose et c'est gratos. T'as juste ton salaire normal.
On t'oblige pas non plus, Alexandre.
Mais moi, je ne vais pas chouiner à la télé pour dire rendez-moi ma chignole, donnez-moi un garde du corps. Non,
puis il y a le service de l'État. Moi, j'ai eu un grand-père. Qui a eu un chauffeur dans sa vie. Il a été, ça nous rajeunit pas, il était directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville.
Premier ministre
du général de Gaulle.
La 5e République.
Oui, mais pardon, ça a de la gueule quand même.
Maurice
Couve de Murville, premier ministre de Gaulle. Bon, mon grand-père a été son directeur de cabinet. Après, il a été directeur de la Croix-Rouge, directeur de la Monnaie de Paris. Donc, pendant ces périodes-là, il a eu un chauffeur. Après, il avait plus de chauffeur. Et je le revois, je me souviens, il m'emmenait dîner au Cercle Inter Allié, qui ne nous rajeunit pas non plus. Je peux te dire que là-bas, tu ne rajeunis pas. Quand
tu vieillis.
On allait dîner, d'ailleurs, par souci d'économie, on allait au Self, qui est au sous-sol, qui est normalement le resto de la salle de sport. Il était ravi d'aller à ce Self, parce qu'on pouvait se servir ce qu'on aimait. Il rentrait au métro, et je lui dis, je rigolais, parce qu'il habitait donc pas à côté, il allait prendre son métro. Vieux monsieur, à l'époque, je sais pas, plus de 80 ans en tout cas. Et je lui dis, mais non seulement t'as plus de chauffeur, mais t'as même pas une bagnole, tu peux pas prendre un taxi et tout. Et il m'a regardé en rigolant, il m'a dit non, j'ai plus rien. Et ça lui allait très bien.
Bah oui.
Il a repris son métro, il en avait rien à foutre.
C'était un vrai serviteur de l'État.
Et donc, je pense que cette simplicité qui lui était un peu imposée par la force des choses, elle ferait du bien ces gars qui se prennent pour des ducs.
Alexandre est avec nous. Alexandre, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous appelez de Poitiers dans la Vienne. Que pensez-vous de ces avantages qui ont été supprimés pour la plupart des anciens premiers ministres, sauf pour Edith Cresson?
Il n'y a rien qui a été supprimé. Ça me fout mais
hors de moi. J'en ai marre. Je fais partie de cette population qui paye des impôts, qui a du mal à les payer, qui travaille très, très dur. Ce matin, je me suis réveillé pas trop de mauvais poils et j'entends les infos et j'entends ça. Mais ça me... On a des incompétents au gouvernement pour gérer la France, mais ils sont compétents pour s'en foutre plein les poches pendant des décennies. Je ne peux plus entendre ça, mais je ne peux plus, mais ça me fout, mais hors de moi. J'en ai marre. Ils sont toujours en train de voler l'argent des Français. Ils sont toujours en train de leur demander plus. Moi, j'aimerais que je rêve que quelqu'un rentre à l'Assemblée, au Sénat, et dise, vous êtes virés. Virez-moi tous ces cloportes, ces traîtres. Ils n'ont rien à foutre à gérer la France. La France, c'est un pays qui vire très mal. Et on a des dirigeants qui pensent qu'à eux. Ces gens-là, mais qu'on leur supprime tous leurs avantages. Ils ont bien assez en retraite. Et ça se prétend gaullien. Ça se prétend issu de De Gaulle. Mais il se retourne dans sa tombe.
Oui,
le pauvre,
ça, c'est vrai
c'est
qu'on
possible.
Est loin du général De Gaulle.
Mais loin, à des années-lumière.
Retrouvons ces gens-là.
L'obligation patriotique.
Qu'on les vire. Et puis que quelqu'un, homme ou femme, qu'on ait une Margaret Thatcher française qui vienne mettre de l'ordre là-dedans. Je ne supporte plus qu'on dépense l'argent des Français de cette manière et encore qu'on vienne leur demander encore de l'argent. On a un service public qui est nul. On donne de moins en moins aux infirmières, aux profs, n'importe à tout le monde. On donne qu'à certains, à l'étranger, partout. Et puis on a des ministres qui se gavent sur notre dos pendant des décennies. Et vous savez pourquoi ils peuvent le faire ? Parce qu'on les laisse faire.
Oui, mais Sébastien Lecornu a fixé quand même de nouvelles règles, donc faut reconnaître que ça bouge un peu quand même.
C'est une goutte d'eau, Oui. Ils peuvent le faire parce que la peur, parce qu'on devrait être dans la rue pour dire que tout ça c'est n'importe quoi. Mais on n'y est pas.
Merci donc, Alexandre. Merci.
Désolé.
Énervé Alexandre, il s'est énervé ce matin.
Il a raison, mais après, je pense que tout ça mériterait d'ailleurs un grand vent de modernisation. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que dit Laura quand elle dit qu'il faut les payer mieux. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui alors c'est pas populaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être mieux payés dans ces carrières-là, parce que sinon plus personne ne veut le faire. En revanche, conserver
mieux
des espèces d'avantages d'ancien régime après les mandats, etc. C'est dingue.
Les avantages, mais pas d'impôts.
Attention. Mieux payé, pas tout. Moi, je pense qu'il y en a aussi qui sont trop payés.
Ouais, si je prends le cas,
regardez, on regarde jamais.
Un exemple.
Regardez les commissaires européens et les hauts fonctionnaires européens.
Oui.
Ça, on regarde pas parce que ça paraît loin. C'est pas loin, ça paraît loin. Ils ont non seulement la BMW rutilante, gigantesque avec le chauffeur, mais ils ont des salaires qui vont au-delà des 300 000 euros par an, plus le staff, etc. Non, mais ça, faut le voir aussi. Hein.
Allez, dans
ça,
un
par contre, je suis pour baisser ça.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser à cette première commune en France qui a réussi à interdire la chasse sur les terrains communaux.
Ça fait 6 heures qu'on est en direct.
C'est du côté de Toulouse. C'est une première en France, c'est la commune de Lerme, et c'est le maire qui s'est battu pour interdire la chasse sur son territoire. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
RMC Story avec Laura Marton-Martinez, sophrologue, Bruno Poncet, le cheminot, Charles Consigny, l'avocat. C'est une première en France, la commune du Lerme. Commune située à environ 25 km de Toulouse, dans le département de Haute-Garonne, a interdit la chasse sur les terrains communaux.
Par-dessus les tons, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
Le plus grand chanteur français de tous les temps.
Michel Delpech.
Ah, Michel Delpech, c'est le plus grand.
Alors, remarquez qu'ils s'appelaient tous Michel dans les années 60.
Ah oui, Michel Sardou, Michel Delpech.
Michel Polnareff.
Ouais.
Michel Fugain.
Ouais.
Michel Jonas.
Michel Trenet.
Michel Thor.
Michel Brassens.
Michel Brassens.
Bon. Michel Brel.
Alors, c'est une première en France, je le
Michel
disais.
Halligan.
C'est une info qui a été révélée par la rédaction d'RMC. Cette petite commune du Lerme a décidé d'interdire la chasse sur les terrains communaux. Alors, le maire a mené ce combat, il s'appelle Frédéric Passion. Il a dit, je me suis battu surtout sur des lobbies, contre des lobbies très puissants. Et ça correspond à la volonté du conseil municipal de sécuriser un bois communal de plus de 20 hectares qui est très fréquenté par les habitants de la commune, donc plus de chasseurs. Entrée en vigueur de cette mesure en 2028. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce maire? Il a eu raison de se battre. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers grandes gueules? Bruno Poncet.
Alors moi, je pense qu'il a eu raison de se battre, surtout si ces électeurs vont se balader là dans les bois et qu'ils ont peur des coups de fusil.
Alors justement, il y a eu deux faits divers.
Bah voilà.
Assez tragique sur cette commune, en lien avec la chasse. En 2007, un pratiquant du VTT a reçu une balle dans l'épaule alors qu'il faisait du vélo avec son fils dans les bois. Et en 2021, une balle perdue est venue se loger dans le bâtiment d'une entreprise. Et donc le maire, après plusieurs tentatives infructueuses, a lancé une procédure en septembre 2025 et celle-ci a fonctionné.
Oui, faut pas. Enfin, moi, je prends pas jamais les choses. Je n'aime pas la chasse. J'aime pas le principe. J'aime pas la chasse. Je comprends pas qu'on puisse aimer chasser. Mais j'ai des chasseurs dans ma famille, donc ils essayent de m'expliquer les bienfaits de la chasse, le fait de régulariser, etc. Je pense que, en revanche, sur ce sujet-là, je me positionnerai pas avec mon opinion, mais je pense que ce maire, c'est mieux que quiconque ce qui doit être fait dans sa ville. Et effectivement, j'étais pas au courant de ces deux faits divers. Bon, bah voilà. T'as une forêt qui est empruntée par la plupart des personnes qui vivent dans le coin. T'as deux accidents. Bon, bah, les gars, vous ne savez pas respecter les règles de la chasse. Ça veut dire que vous allez trop près des habitations, trop près des chemins de balade. Bon, bah, t'as joué.
Pas tiré.
On ne tire pas sur les cyclistes. On ne fait pas ça.
Ouais, mais le cycliste, il avait des plumes.
Il a cru que c'était un chevreuil.
Oui, il avait donc, des plumes.
Voilà. Donc, peut-être qu'après, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, si les animaux, effectivement, ça repeuple tout.
Après, on
ça...
peut pas interdire la chasse.
Non,
partout.
bien sûr que non.
C'est... être embêté aussi.
C'est ce que je te dis. Après, voilà, si dans 10 ans les espèces prolifèrent et que ça commence à faire de la nuisance, peut-être qu'il remettra l'autorisation et que ça aura calmé les chasseurs qui faisaient que des bêtises.
C'est un article de la loi du Code de l'environnement qui a été voté par les législateurs et qui permet à tout propriétaire de terrain de les retirer d'une association de chasse agréée sur un motif dit de conscience ou au nom de conviction personnelle opposé à la pratique de la chasse. Et c'est sur cet article que le maire a réussi à faire interdire la chasse dans ce bois communal, avec la pression des chasseurs qui, bien sûr, n'étaient pas contents. Charles Consigny, avant d'accueillir Nathalie.
Non, mais je sais que les chasseurs sont très, très, très sensibles à leur cause et attention à quiconque émet la moindre critique s'agissant de la chasse.
Ah, ouais.
Non, mais les chasseurs eux-mêmes. Moi, alors là, dès que je dis un truc qui va plus ou moins contre la chasse, je reçois des messages indignés de chasseurs passionnés. Donc, à titre personnel, je ne suis pas pour l'interdiction de la chasse. Ça n'aurait pas de sens. Dans ce cas-là, on interdit tout simplement, si le sujet, c'est la souffrance animale, on interdit la viande. Dans ce cas-là, on interdit les abattoirs.
On peut même interdire un poisson.
On peut interdire le poisson. Et puis après, comme les végétaux ont une âme, on n'aura plus qu'à se nourrir de produits de synthèse. Enfin, j'en sais rien. Donc, soyons raisonnables. En revanche, qu'un maire décide, parce qu'il en a ras-le-bol, il trouve que ça fait du bruit, que ça emmerde les gens qui veulent se balader dans la forêt, etc., qu'il décide,
une balle, quoi,
sur sa commune, d'interdire la chasse, moi, ça me choque pas du tout. Je pense qu'il faut laisser la liberté au maire de décider de ce genre de choses.
Nathalie est avec nous. Bonjour, Nathalie.
Bonjour à vous.
Vous êtes chasseuse ?
Ah, pas du tout. Alors, je suis pas du tout chasseuse. J'ai aucun embrigadement dans la chasse. Par contre, je vous le dis, je suis contre cette... Je veux que la chasse persiste.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'ai 1,2 hectare de terrain que j'ai planté en fruitier. Et quand les chevreuils, les cerfs, les sangliers sévissent dans ma commune, c'est hors de question. Ça fait des dégâts incommensurables.
Donc vous avez besoin des chasseurs pour réduire un peu le nombre de sangliers, de lapins, continuer à produire des fruits.
C'est pas éradiqué, c'est régulé. Par contre, moi je vous le dis, j'ai un terrain 1,2 hectare que j'ai planté en fruitiers d'hiver et sauvage, ça m'a coûté plus de 20 000 euros, d'accord. Et oui, là, il n'y a plus rien. On a des 4 sociétés de chasseurs, il n'y en a plus.
Oui. Vous n'avez plus rien à cause des animaux?
Ben pas à cause des animaux, mais à cause de toutes ces interdictions.
Oui, mais là, si Nathalie, permettez-moi, mais je pense que si le maire il fait ça avec les accidents qu'il y a eu et pour qu'il prenne une décision qui va.
Quels accidents ? On n'en a eu aucun dans la commune.
Mais je veux pas. Nathalie, lâchez ce fusil que vous avez dans les mains.
Je veux pas.
Reposez-le dans son étagère.
Je parle pas de votre commune, Nathalie. J'ai de la peine pour vos mandariniers. Je vous parle de ce maire-là, effectivement.
C'est pas des mandariniers. Qu'est-ce que vous avez compris ?
Non, mais je vous avais raison, Nathalie.
Attendez, vous avez quoi compris ?
À un moment donné, monsieur, les chasseurs, ce sont pour moi les premiers écologistes. Et je ne suis pas pro-chasse. Mais pour moi, ce sont les premiers écologistes. D'accord ? Donc, entre les chasseurs et les agriculteurs, laissez-les faire. Il y en a ras-le-bol, là, de toute cette merde. Moi, j'avais un chevreuil hier matin. D'accord ? Ouais. Dans mon truc, là. C'est mes chiens qui l'ont chassé et je suis bien contente qu'ils l'ont chassé parce qu'à un moment donné vous voulez réguler la chasse mais qui va payer parce que ce sont les chasseurs et les agriculteurs qui payent pour toute votre connerie.
Vous êtes armée vous-même Nathalie ?
Il n'y a pas besoin.
Ben moi j'ai perdu 10 000 euros à cause d'un troupeau de vaches qui est venu sur le terrain. D'accord ? L'agriculteur n'était pas assuré. Et j'en ai eu pour 10 000 euros. Moi, j'ai planté, j'ai 1,2 hectare, je vous le dis.
Vous avez quoi comme fruits, Nathalie ?
Ah ben, j'ai de tout. J'ai des pruniers, des poiriers, des pêchers, on est en train de manger nos pêches. Des cerisiers, de tout. Les chasseurs sont indispensables, je vous le dis clairement et correctement.
Là,
et
en ce moment même, est-ce qu'un chasseur est en train de braquer son arme sur votre visage ?
Ah non.
Est-ce que vous vous exprimez sous la pression ?
Les chasseurs, je vous dis, je suis infirmière libérale.
La chasse en soi,
les chasseurs et les agriculteurs sont pas contre la biodiversité, pas du tout.
Mais c'est pas du tout ce qu'on
dit. Non, mais ce que dit Nathalie, je comprends Nathalie, c'est que il y a quand même effectivement en ce moment un petit vent anti-chasse parce que ce sont les urbains quand même qui sont les plus anti-chasse, les gens qui mettent jamais le pied à la campagne.
Non, là c'est le maire d'un patelin. Le mec dans son territoire, il a une balle qui arrive dans un bâtiment et une autre balle qui a touché un cycliste à un moment donné. Vous pouvez vous enflammer si vous voulez, mais enfin en attendant, l'histoire elle est là. Si vous êtes dans un terrain, vous faites du VO, prenez une balle. Je pense que c'est quand même un problème. Alors vos amis chasseurs, agriculteurs, c'est peut-être les plus gentils du monde. Mais ouais, il vaut peut-être mieux avoir un cerf dans son jardin qu'une balle dans l'épaule. Mais bon, c'est votre choix. Hein.
Oui, enfin, c'est assez rare quand même.
On peut équiper les promeneurs de gilets pare-balles.
La plupart des accidents,
ça tient pas dans les gilets pare-balles. Je vais avoir une balle dans l'épaule. Sans déconner, c'est à ceux qui interviennent dans les forêts et dans les campagnes de se prémunir.
Bien sûr, mais oui, c'est vrai que vous allez vous balader dans une forêt avec votre vélo, c'est à vous d'avoir un gilet pare-balles, vraiment une armure. Ah, oui, mais vous avez raison.
Alors attends, il faut quand même préciser, la plupart des forêts, ce sont des domaines privés, donc t'as rien à faire. Enfin, tu vois, à un moment donné. Là, on parle d'un bois communal, donc voilà. Là, le maire a l'autorité, mais si c'est un domaine privé, je suis désolé.
Et puis je pense que ça n'a pas été.
C'est demander aux promeneurs de ramper.
Non, mais
faut pas se mettre à hauteur.
Alors tiens, Christophe est avec tous les chasseurs. Bonjour Christophe.
On prend Nathalie, mais si le maire il en est là avec tous les leviers qu'il a dû monter, c'est que je pense qu'il y a dû avoir des abus parce que dans la plupart des communes.
Tâchez de ne pas ressembler à un sanglier si vous allez vous promener dans les bois.
Dans la plupart des communes, ça se passe très bien.
Un petit régime avant la balade, hein.
Christophe, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Vous appelez de la Drôme. Vous êtes chasseur.
Bonjour les GG.
Et vous êtes plutôt d'accord avec la décision du maire.
Oui, c'est très bien que le maire ait fait ça. S'il y a des dégâts de sangliers, de cerfs ou de chevreuils qui sont avérés, que les sangliers ou les chevreuils ou les cerfs sont dans ce bois et qu'il y a des dégâts sur des maïs ou sur les cultures à côté, vu qu'il a retiré ses terres de l'association de chasseurs, ce ne sera pas les associations de chasseurs de payer les dégâts de sangliers. Quand il verra les ardoises qui payent des 20 à 30 000 euros de dégâts sur maïs ou sur arbres fruitiers ou autres, ils seront obligés de le payer. Il y a une loi qu'ils ont fait passer. Qui est passé, que maintenant, si on retire les terres et que les chasseurs ne peuvent plus y accéder, s'il est avéré que le gibier dépend de cette parcelle du bois qu'il a retiré, c'est la mairie qui paiera les dégâts.
Donc le maire a pris un petit risque financier avec son histoire.
Ah ben oui, il a pris un risque financier. Nous, on a une association de chasse, on a en trésorerie, rien que pour les dégâts de grand gibier qu'on garde de côté, on a au minimum 30 000 euros. Parce qu'il y en a eu des gros dégâts sur des maïs semences.
Et on vous fait porter la responsabilité?
Ah bien sûr, les chasseurs payent des dégâts de grand gibier. Sur notre commune, on est sur une commune sur Rochefort-Sanson. S'il y a des dégâts de gibier qui sont avérés là, on parque les maïs et les dégâts qu'il y a eu, il y a un expert qui est mandaté par la Fédération de chasse qui vient, il y a tant d'hectares, tant de pertes de l'agriculteur et les dégâts sont payés aux agris.
Parce qu'on demande aux chasseurs de réguler, et de réduire le
réguler,
nombre de
sangliers. Si le boulot est, et nous, on a une trésorerie, on n'est qu'une association, on n'est pas nombreux, on est une cinquantaine de chasseurs, mais on a 30 000 euros en caisse qui sont réservés, qui sont bloqués uniquement en cas de dégâts de sangliers. Parce que la Fédération a une toute
petite partie. Mais comment on prouve que c'est à cause de vous que vous n'avez pas fait votre
boulot? Parce que c'est le deal, en fait, que je t'autorise de chasser si tu régules.
Ils n'ont même pas approuvé pour nous, pour les chasseurs, si le territoire communal il est chassé. Dès qu'il y a des dégâts, ça revient à la CCA. Donc
c'est vrai. Alors j'espère que le maire a expliqué ça à ses administrés, parce que forcément.
Ah, surtout s'ils ont des cultures de maïs de semence ou des fruitiers et que ça douille vite, si c'est du bio, la facture double, expertise par un expert et après la facture.
Donc vous êtes en train de nous dire que vous nous dites aussi, la chasse c'est aussi important parce que c'est la régulation.
C'est très important, mais c'est super important la chasse.
Tous les dégâts qui sont causés par les chevreuils, les cerfs, les sangliers ou autres, même si c'est du lièvre qu'on a eu des dégâts, on a eu des dégâts sur un maraîcher, on est obligé de clôturer et payer l'indemnisation des dégâts. Si c'est un maraîcher bio qui lui détruise des courges ou autre chose et des légumes qui valent très cher, vous allez voir comment il va déchanter.
Merci Christophe de cette précision qui est assez intéressante quand même. Effectivement, le maire s'est engagé dans un truc pas évident. Bon, merci à tous, on va s'arrêter là. On va se retrouver demain à 9h pour une nouvelle cuvée de Grande Gueule avec Abel Boyer, Emmanuel Devilliers et Barbara Lefebvre. On vous souhaite une très bonne après-midi sur RMC avec le meilleur d'Estelle Midi et sur RMC Story avec la suite de vos programmes. À demain à 9h.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.